Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le lundi 6 octobre 2025. C'est lundi matin et il n'y a même plus de suspense. On sait que ça va aller plus haut, peu importe la raison. Il y aura forcément des mauvaises nouvelles cette semaine et c'est sûrement la raison qui nous fera trouver des excuses pour aller plus haut. En lisant la presse de ce matin, je ne sais pas ce qui me frappe le plus. Le fait que le président français se foute vraiment du monde avec son nouveau gouvernement de tocards ou le fait que la hausse permanente soit devenue une évidence. On ne sait plus où est l'économie et puisque les fonctionnaires se sont fait virer, il va falloir composer avec, mais ça montera quand même. Et quant à ceux qui nous gouvernent, il n'y a plus d'espoir. La première chose qui frappe en allumant mon écran aujourd'hui, c'est que tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors bien sûr, et j'ironise, mais force est de constater que peu importe la nouvelle, les marchés montent de toute façon. Il n'y a donc pas vraiment de raison de se prendre la tête avec ça. Il n'y a plus de raison d'avoir peur. On sait que le marché de l'emploi est en train de partir en vrille. On sait que depuis l'avènement de ChatGPT, l'emploi s'est effondré et que le S&P 500 a explosé. Mais peu importe, on s'en tamponne comme jamais. Sans compter que depuis une semaine, on ne publie plus les chiffres de l'emploi parce que le gouvernement américain n'arrive pas à se mettre d'accord pour payer les salaires des fonctionnaires qui sont censés calculer les chiffres de l'emploi. Alors oui, on a bien vu la semaine dernière que les chiffres de l'emploi privé, donc la version ADP, montraient que l'on ne créait plus d'emplois, mais qu'au contraire, on les détruisait. Mais c'est pas grave, c'est une bonne raison de baisser les taux et de faire monter les marchés au plus haut de tous les temps, et c'est ce qu'on a fait vendredi dernier. Plus c'est la merde, plus ça monte, et si par hasard, au milieu de tout ça, il y a la moindre bonne nouvelle, c'est l'explosion totale. Et pour être franc avec vous, j'ai bien l'impression que la semaine qui commence sera du même acabit. J'ai passé 2 heures à lire des articles et à regarder des graphiques qui disent tous la même chose, l'emploi est un problème, l'économie ralentit, il y a trop de spéculation dans le marché, les volumes des options explosent, la confiance est excessive, le marché est très cher, voire même trop cher. Ce week-end encore, Moody's tire la sonnette d'alarme. Selon eux, l'économie américaine est à 2 doigts de plonger dans une récession carabinée. Déjà 22 États et Washington DC sont en mode faiblesse persistante, avec perte d'emploi à la clé. Et 13 autres sont à peine en train de surnager. En clair, l'économie US ressemble à une voiture en équilibre au bord d'un ravin. Si les passagers changent de place ou font mine d'éternuer, c'est le plongeon en bas de la falaise. Et il ne faut pas aller trop loin pour trouver les responsables à cette situation. Et les tarifs douaniers de Trump, qui foutent un bordel monstre dans les chaînes d'approvisionnement et bloquent les plans d'expansion des entreprises, la stagnation de la main-d'œuvre, zéro croissance cette année, et les coupes fédérales imposées par la fameuse Department of Government Efficiency qui ont plongé Washington et ses alentours dans la pire dépression régionale du pays. Moody's estime que si la Californie ou New York lâchent, c'est de la récession nationale directe. Et d'ailleurs, Lucy Haley a commencé déjà à envisager sérieusement une récession en Californie. Tout le monde n'est pas d'accord, bien sûr. Je suis même tombé sur un opposant qui manifestait pour dire que tout ne va pas si mal puisque le PIB du troisième trimestre devrait sortir à 3,8% en rythme annualisé pour autant que quelqu'un le calcule. Et tout ça avec une consommation solide. Mais Moody's persiste. Ok, le PIB, c'est joli. La consommation tient, mais le marché de l'emploi faiblit. Pour eux, les États dépendants de l'agriculture, du manufacturier léger, du mining et du transport sont déjà dans le dur. La Nouvelle-Angleterre rame comme d'habitude, croissance molle même quand tout va bien. La Géorgie surprend par sa récession liée au coût délirant de l'immobilier, tandis que la Pennsylvanie fait figure de bonne surprise grâce à l'éducation et la santé. En résumé, l'économie US est un verre à moitié plein ou à moitié vide, selon où on se place. Moody's y voit un précipice imminent, d'autres y voient un moteur qui tourne encore. Et au milieu de tout ça, les États deviennent des laboratoires de crise miniature. Certains coulent, d'autres surnagent et quelques-uns brillent à contre-courant. Et pendant ce temps-là, les marchés sont au plus haut de tous les temps et rien ne semble pouvoir les arrêter. La semaine s'annonce encore une fois rythmée par les rendez-vous avec la Fed et quelques indicateurs économiques, même si le shutdown limite sérieusement la visibilité. Mardi, on commencera doucement avec les chiffres des anticipations d'inflation de la Fed de New York, histoire de voir si les ménages s'attendent à payer leurs baguettes plus chères demain qu'hier. Mercredi, place aux minutes de la Fed, la formulation de la dernière réunion de la Fed qui nous permettra de décortiquer qui était inquiet, qui était serein et qui faisait semblant de pas l'être et qui pense déjà à baisser les taux, Mike Ryan probablement. Jeudi, c'est Powell en personne qui montera sur scène. Et comme d'habitude, on va analyser chaque virgule de son discours pour savoir si les marchés doivent acheter, vendre ou juste aller au Starbucks. Et vendredi, ce sera ou pourrait être une journée chargée. On aura d'abord le sentiment des consommateurs du Michigan, suivi de leurs attentes pour l'avenir. En gros, est-ce qu'ils ont le moral pour consommer ou pas? Et cerise sur le gâteau, si le shutdown s'arrête enfin, on pourrait même avoir le rapport sur l'emploi de septembre. Le fameux Jobs Report, le NFP, celui que tout le monde attend, mais qui est resté bloqué au BLS pour le moment. Mais pour être franc, quand on lit la presse spécialisée, il faut pas trop compter sur un déblocage de la situation. Les bookmakers parient sur un shutdown de plus de 20 jours et rien ne bouge ailleurs puisque Trump est plus préoccupé par son prix Nobel de la paix qu'autre chose. En Europe, on va faire comme d'habitude, sucer la roue des USA, les Allemands sont presque au plus haut de tous les temps et les futurs qui sont indiqués en hausse de plus de 0,3% ce matin devraient leur permettre de passer l'épaule et puis il y a la France. Alors oui, je ne suis pas français et j'ai probablement pas le droit de me mêler de la politique française parce qu'il y a assez à faire avec nos clowns à nous, mais je dois dire que l'on touche à des niveaux de conneries rarement égalés dans le monde dit civilisé. Je sais également qu'en tant que financier, on devrait s'en foutre cordialement puisque nous avons pu voir que moins il y a de gouvernement, plus le CAC 40 il monte, mais là, quand on voit l'annonce du clone de Macron pour présenter sa nouvelle équipe de débiles, on est quand même en droit de se demander si le génialissime Mozart de la finance qui se prend pour Napoléon et qui passe plus de temps à l'étranger qu'en France, n'a pas complètement pété les plombs. Et si c'est pas le cas, et si c'est pas ça, c'est qu'il fait définitivement et absolument tout pour bien montrer aux Français qu'il les emmerde à un niveau d'emmerdement jamais vu dans l'histoire de France. Et si l'on doit résumer la chose, le cornu a repris le même ministre de l'Intérieur, le même ministre de la Justice, la même ministre de l'Éducation nationale. Ils ont réussi à mettre Roland Lescure, autre clone de Macron à l'économie, et en plus, ils sont allés récupérer l'auteur de bouquin de cul et le gars qui a coûté 1000 milliards de dettes au pays pour le mettre aux armées. Si ça, c'est pas un gigantesque doigt d'honneur à la France entière, je ne sais pas ce que c'est. Bon, je vais m'arrêter là parce que c'est pas mon job de parler politique française, c'est que de toute façon, le CAC montera quand même ce matin, et puis si ça se trouve, ce joli petit gouvernement de paquetis va tomber la semaine prochaine. Alors à quoi bon? Mais quand même, faire revenir Bruno Le Maire, il fallait quand même oser. Et si on prend la définition de la folie, qui dit que la folie, c'est recommencer les mêmes choses en espérant un résultat différent, Macron est non seulement complètement taré, mais en plus, il est complètement con. Peu importe la France, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que les marchés vont monter, que rien ne peut les faire baisser, ni la politique, ni l'économie, ni Trump, ni Powell, rien. Et je ne sais pas à quel moment les choses vont tourner vinaigre, mais à voir le nombre d'articles un peu partout qui commencent à mettre le monde entier en garde contre un crash, j'ai bien peur que ça risque de monter encore un bon moment dans une exubérance irrationnelle des plus folles. Cette nuit au Japon, le no man's land politique vient de se terminer, et Tokyo devient un woman's land, puisque normalement c'est Sanae Takaishi qui s'impose et s'apprête à devenir la première femme Premier ministre du Japon, une nomination qui devrait être confirmée à la mi-octobre. Et la bonne nouvelle dans ce monde merveilleux de bull market, c'est que Takaishi était considérée comme la plus deviche des 5 candidats en lice, et les marchés adorent ça. Elle plaide pour davantage de dépenses publiques et des allègements fiscaux afin de soutenir une économie japonaise qu'elle juge encore fragile. Elle est aussi perçue comme la dirigeante qui freinera les ardeurs de la Banque du Japon sur les hausses de taux. Les actions japonaises sont en train de sabrer le champagne, et le Nikkei explose de 4,6% au plus haut de tous les temps. Ça danse tout nu sur l'État parce que Takaishi promet plus de dépenses publiques, des impôts allégés, des taux bas et un yen faible qui booste les exportations. Bref, pour elle, c'est jackpot. Par contre, pendant ce temps, les obligations japonaises sont en train de ramer. Elles voient déjà la montagne de dettes qu'il va falloir financer, sentent le yen qui s'affaiblit et l'inflation qui va pointer son nez. Résultat, elles réclament tout de suite plus de rendement pour préparer la grosse gueule de bois qui va inévitablement se pointer. Moralité, quand la bourse fait la fête, le marché obligataire n'est jamais bien loin pour rappeler que quelqu'un devra payer la note à la fin. On va reparler du carry trade, peut-être pas tout de suite, mais on va en reparler. Autrement, pendant ce temps, la Chine revient tranquillement au bureau dans des petits volumes avec un marché qui monte doucement. Hong Kong subit quelques prises de profit sur la tech. Le pétrole rebondit à 61,82 $. L'or frise les 4000 et le bitcoin est à 123 500 après avoir touché les plus hauts de tous les temps ce week-end. Et puis non, apparemment, ça n'est pas une fake news. Le Trésor américain va effectivement émettre une pièce de 1 $ frappée à l'image de Donald Trump. Entre le prix Nobel de la paix et son effigie sur une pièce de monnaie, on craint le pire pour les années à venir. Peu importe, ce qu'il faut surtout retenir ce matin, c'est que les USA sont toujours en shutdown, que les Japonais devraient enfin avoir une première ministre, que tout est dans le vert, et que ça devient de plus en plus compliqué de trouver une mauvaise nouvelle capable de faire baisser le marché. On vit dans un monde d'illusions et qui nous démontre que tout va bien et que même si ça ne va pas, on finira par trouver un moyen que ça aille mieux en baissant les taux. Et le pire, c'est qu'on y croit. C'est donc un petit lundi et j'espère que demain on aura un peu plus à se mettre sous la dent que 3 politiciens qui jouent aux chaises musicales et des présidents qui ne savent plus comment faire avec leurs égos surdimensionnés. Excellente journée à tous, bon début de semaine et à demain.